Alors, bonjour à tous, chers amis des Utopiales. Bienvenue donc à cette interro-surprise. Alors, si vous êtes un peu trop là, je risque de ne pas voir vos mains levées, mais bon, vous crierez très fort, voilà. Ou peut-être vous parlerez un langage extraterrestre et à base de frottement et de cliquettement, on verra. Ok. Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Alors, les expériences de pensée, les interro-surprises, je commence à fatiguer. Les interro-surprises, c'est une nouveauté donc, de cette année. Alors, le principe, il est clair et relativement simple. Le public pose des questions en rafale à mon invité Laurent Gennefort. Merci de l'applaudir avant qu'il commence. Voilà. Et moi, je suis là pour retenir les fans qui voudraient lui arracher sa chemise. Voilà, et en plus il est un peu fatigué parce qu'il a eu un voyage un peu difficile, donc on va, voilà. Alors vous posez toutes les questions que vous voulez, absolument toutes les questions que vous voulez sur son œuvre, sur son rapport aux extraterrestres, sur les extraterrestres et la place des extraterrestres dans la science-fiction. Le cas échéant, j'interviendrai peut-être, mais bon, le cas échéant. Voilà, il n'y a pas d'autres règles. Évidemment, la violence physique est interdite, la violence verbale est plutôt pas bienvenue. Voilà, et pour le reste, on peut commencer.
Je suis un être pacifique.
Voilà, c'est un être pacifique. Alors, Laurent Gennefort donc, est l'un des très grands et très importants auteurs français de science-fiction, qui a déjà derrière lui une importante carrière. L'un des maîtres français du space opéra, un auteur de space opéra.
Je t'avais dit de ne pas le dire.
Mais... Oh, bah bon, on l'a dit quand même, voilà. Et puis, qui est un auteur qui est vraiment à la fois très prolifique hein, et puis très, très très pertinent, et qui construit en plus, qui construit vraiment son œuvre, et qui a abordé le thème des extraterrestres un peu tardivement, justement, par souci, vas-y. Hein,
Ouais, parce que c'est un sujet, les extraterrestres, c'est un sujet qui m'intéresse depuis, enfin, je le considère comme au centre vraiment de la SF, avec les robots, en fait. Hein, je trouve que les robots, les mutants, les extraterrestres, c'est trois, mutants ou post-humains, quoi. C'est les trois... C'est les trois figures centrales de l'altérité dans la SF, et c'est ça qui m'intéresse dans la SF, c'est l'altérité. Mais les extraterrestres, c'est quelque chose de, je trouve, de central et de très casse-gueule. C'est très facile d'être ridicule ou d'être superficiel avec. Donc c'est vrai que j'ai fabriqué sur mes 25 premiers romans, il n'y a pas un extraterrestre parce que merci. Et j'ai fabriqué mon univers pour qu'il n'y en ait pas, pour qu'on n'en montre pas au début. Parce que c'était un peu une gageure pour moi de montrer un... Voilà, donc j'ai attendu les années 2000 pour en montrer enfin.
Depuis combien de temps tu écris maintenant ?
J'écris depuis 25 ans dans ces eaux-là.
D'accord. Ouais. Voilà, et donc notamment, je voulais vous montrer, pour commencer, hein, en guise d'introduction, voilà, le très beau Point chaud. Voilà, dont le thème est justement l'extraterrestre, voilà, qui est paru aux éditions Le Bélial et qui est disponible à la librairie. Et alors, le micro que j'ai dans la main, il est pour vous, donc à qui je le donne en premier? On y va. Allez. Alors, vous le faites passer en toute bonne intelligence hein, et citoyenneté, hein, civilité, hein, j'espère.
Bonjour.
Bonjour.
Je ne connais pas votre œuvre, mais je suis disposé à la connaître. Juste la première question la plus rhétorique, si on peut dire. Si les extraterrestres existaient, où sont-ils ?
Alors, mon rapport avec les extraterrestres est fictionnel, et purement fictionnel. Dans la réalité, c'est une hypothèse de travail sur l'existence de la vie extraterrestre. Il y a de bonnes chances, on va dire, statistiquement, qu'elle existe dans l'univers. Simplement, si on considère que les lois physiques sont partout les mêmes et qu'il n'y a pas de raison que des atomes de carbone ne s'apparient pas avec des atomes d'hydrogène et d'oxygène à 100 000 années-lumière, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas à l'autre bout de la galaxie. Donc, dans une zone habitable, dans une zone stellaire habitable, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Maintenant, tout le côté, on va dire, vie intelligente, ayant produit une technologie qui aurait essaimé à travers les étoiles et qui nous serait parvenue, là, on va quand même très très loin dans la spéculation. C'est une forme de SF populaire que j'aime bien lire, qui est un peu hors de mes compétences littéraires. Moi, j'essaie d'être, j'allais dire, plus hard science et plus respectueux de ce qu'on sait de la réalité contemporaine. Mon approche fictionnelle, elle est plutôt réaliste, avec des gros guillemets, évidemment. Mais voilà, donc je ne vais pas postuler que les aliens vont arriver avec des soucoupes volantes. Je suis un peu hors de ce champ-là. Donc mes rapports avec les... Mais ce qui ne m'empêche pas de faire, dans Point Chaud par exemple, j'imagine que les aliens débarquent en masse, qu'il y en a partout. Je ne m'autorise pas de m'évader dans des trucs peu réalistes. J'ai conscience que ça ne pourrait pas arriver demain. D'abord parce que je fais appel à de la super science, donc des trous de verre qui ouvrent sur une sorte de grand réseau qui relie des milliers de planètes. Bon, ça, on sait que les trous de verre, ça reste une hypothèse. Et des trous de verre macroscopiques, c'est encore plus hypothétique. Donc voilà. Donc on est dans des. Voilà. Donc je m'autorise tout à fait de faire une hypothèse délirante, mais tant qu'elle est filée de façon réaliste. Et ce qui me permet de montrer. Mais même dans Point Chaud, qui est avec des aliens partout, j'ai essayé quand même de garder. Quand même un côté réaliste entre guillemets, c'est-à-dire que j'indique que c'est uniquement une partie du réseau où les aliens qui viennent nous visiter viennent de planètes biocompatibles avec la Terre, c'est-à-dire au moins qui sont basées sur du carbone, qui respirent un mélange hydrogène-azote, etc. Donc donc j'essaie d'être quand même un minimum réaliste.
Ok, mais j'ai ma réponse. Ils sont dans vos livres alors.
Voilà. Voilà.
On a la preuve, regardez, je vous les montre. Hein. On aurait dû faire des scans de. Voilà. Vous les avez, ils sont dans le livre. Et puis je signale aussi que vous avez, pour compléter, un documentaire de Michael Madsen, pendant que le micro circule. Un documentaire d'un réalisateur danois, Michael Madsen, qui n'est pas l'acteur de Reservoir Dogs, qui s'appelle The Visit, qui est en cours de diffusion là, il sera rediffusé demain. C'est une expérience de pensée sur si l'extraterrestre arrivait. Qu'est-ce que nos scientifiques, nos philosophes, nos artistes, tous ceux qui pourraient être amenés à leur parler, qu'est-ce qu'ils leur demanderaient en premier et qu'est-ce qu'ils attendent comme réponse. Voilà.
Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, Point Chaud, c'est un peu une sorte de... Je voulais justement ne pas donner la parole aux élites. Et Point Chaud, c'est des contacts d'aliens à humains, mais qui ne soient pas dans des cadres diplomatiques ou militaires ou en tout cas officiels. C'est vraiment des personnes qui rencontrent des aliens au coin de la rue. Et les aliens eux-mêmes ne sont pas représentatifs de telle espèce, etc. J'ai voulu les singulariser à chaque fois. Et c'est ce que je fais d'une manière générale dans mes bouquins, que dans Point Chaud ou dans mes space opéras avec des aliens. C'est-à-dire que mes aliens, ce n'est pas simplement les représentants d'une espèce. Ils ont chacun... Des individus. Voilà. Si tant est que le mot individu ait un sens, d'ailleurs, dans leur culture. Des fois, ça dépend. Mais j'essaie d'avoir le point le plus relativiste possible.
D'accord. Alors, question suivante. On y va. On n'a que des timides. Oui, non.
Même des questions bêtes sont.
Alors, je continue du coup. Hein,
vous avez raison.
Est-ce que dans vos livres, il débarque du fait des bouteilles à la mer que nous avons envoyées nous-mêmes ?
Non, pas dans Point Chaud. Alors dans mes space opéras, c'est un peu particulier parce que l'humanité a colonisé des milliers de mondes et donc elle se retrouve en contact avec des extraterrestres, mais l'humanité elle-même est extraterrestre. Donc ce sont des espèces qui se rencontrent sur des territoires étrangers. Voilà, c'est donc l'humanité n'est qu'une espèce parmi d'autres et je raconte. L'histoire d'humains comme d'extraterrestres. Et par exemple, j'avais tenu vraiment absolument à ce que la première scène d'un de mes cycles qui s'appelle Omal, où l'humanité partage et dans un artefact gigantesque où un échantillonnage d'humanité a été importé. Et elle se retrouve avec deux autres espèces, les Hodkin et les Schill, à devoir cohabiter. Et je voulais absolument que le premier chapitre, au moins le premier chapitre du roman, ne soit pas le protagonisme, ne soit pas humain. Donc le premier héros de Omal, qui est un énorme cycle, qui fait quatre gros romans avec plein de nouvelles aussi, le premier héros d'Omal n'est pas humain. Je tenais vraiment à cet aspect-là. Et puis, d'ailleurs, pour l'anecdote, le premier roman tout entier, il ne devait pas y avoir d'humain dedans. Et c'est Marion Mazorik, qui était directrice de la collection Millénaire chez J'ai lu, donc mon premier éditeur chez Aumale, qui avait tempéré mes ardeurs en me disant « Oh là là, là là, t'emballe pas, faut quand même
pouvoir s'identifier. »
Voilà, faut quand même des points de repère pour le pauvre lecteur. Donc tu es prié d'insérer quelques humains là-dedans, ce que j'ai fait.
Allez-y, avec le micro. On vous entend pas.
Alors, je t'entends pas du tout.
Oui, c'est parce que c'est moi qui l'ai eu entre-temps.
D'accord. Juste pour compléter, c'est vrai que pendant très longtemps, les extraterrestres en science-fiction ont été identifiés par comparaison avec l'humain. Hein, si vous pensez, pour ceux qui ont un certain âge déjà parmi vous, ceux qui ont fait des jeux de rôle, à l'époque où les jeux de rôle étaient en papier avec des crayons et des... Il y avait un jeu de rôle qui s'appelait Star Frontier, où on définissait les races extraterrestres par... donc. Les Vrusques sont à la fois plus résistants que l'humain, mais plus lents. Les autres sont à la fois plus rapides, mais plus résistants. Enfin, à chaque fois, on avait toujours l'humain comme base de référence pour l'identification.
L'humain ou un animal. Ou un animal terrien. Mais encore aujourd'hui, prenez Avatar. Les Navis, ou les Navis, je ne sais plus, ce sont des grandes panthères bleues. Donc, on est encore dans du registre de référence immédiatement terrestre.
C'est même à se demander si on est capable d'inventer un extraterrestre complètement non terrestre, qui ne soit pas simplement la reconstitution ou l'amalgame d'éléments de un peu de loup, un peu d'humain, un peu de.
Alors, ça a été fait dans certains volumes d'illustrations scientifiques, où il y a eu effectivement 2-3 bouquins très très bien faits dans les années 90-2000. Souvent des bouquins anglais d'ailleurs, d'exobiologie appliquée en fait à des espèces, où ils ont essayé justement de s'abstraire totalement des formes humaines, et ils ont pris une optique darwinienne, c'est-à-dire qu'ils ont dit voilà, on imagine on prend la vie au tout début et on fait un nouveau des nouveaux phylums, des nouveaux règnes, etc.
Ok.
Alors par contre c'est toujours très difficile. Excuse-moi, je te donne la parole. Par contre c'est toujours très difficile au niveau créatif de s'abstraire de, j'allais dire, des grandes classifications. C'est-à-dire de qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre que comme séparation entre le végétal et l'animal. Qu'est-ce qu'on peut trouver, enfin végétal, animal et puis champignon, puisque enfin c'est les trois grands règnes. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre, par exemple, pour en sortir comme être pluricellulaire, voilà. On peut s'interroger là-dessus. Quel autre type de sexualité peut y avoir? Donc des choses. C'est là-dessus qu'on peut innover aussi.
Oui, d'accord. Alors on y va. On continue.
Je pensais à V, où ces fameux visiteurs qui au départ apparaissent très monolithiques face à une humanité qui est diverse. Dont certains résistent, dont certains collaborent. Voilà, c'est l'aspect plutôt social ou culturel qui est plutôt pris en compte, un peu comme dans aussi La Guerre éternelle, où en fait ces deux civilisations arrivent enfin à communiquer à partir du moment où elles ont le même statut, c'est-à-dire c'est tous des clones. Hein. Et donc ma question c'est, est-ce que tu as développé ou tu as pensé à des nouvelles formes de culture sur ces fameux extraterrestres?
Oui, alors c'est un peu le sujet d'Aumale en fait. Mon cycle c'est justement, j'ai repris à la base, comme le thème de l'extraterrestre me faisait peur, je me suis dit je vais emmagasiner des cartouches justement, et les cartouches sont devenues un véritable arsenal parce que je leur ai créé une biologie, des règles sociales, des fois basées même sur leur façon de leur gamme sensorielle. J'ai vraiment repris tout à zéro, voilà, justement. Donc mais ce qui n'empêche pas des fois des convergences de formes, c'est-à-dire que par exemple je me suis un peu basé sur, par exemple, si on prend la forme d'un requin et d'un dauphin, c'est à peu près la même, et sauf qu'il y en a un c'est un poisson et l'autre c'est un mammifère. Donc on peut, mais simplement la forme étant idéale pour naviguer dans l'eau, sous l'eau, il était logique qu'il y ait des convergences de formes. Donc on peut quand même imaginer que, ou par exemple l'œil. L'œil a été inventé au moins 5 ou 6 fois dans l'histoire de la vie, et ne fait intervenir pas du tout les mêmes gènes. Donc un œil d'arthropode génétiquement parlant, ça n'a pas grand-chose à voir avec un œil de mammifère, par exemple. Donc la vie va recréer l'œil parce que simplement l'œil, c'est le capteur indispensable pour pouvoir avoir une appréhension de son environnement. Il faut capter des photons pour avoir une image de son environnement pour se déplacer. Donc ça, on peut imaginer que si on prolonge le raisonnement, des extraterrestres puissent eux aussi capter la lumière autour d'eux parce que c'est la façon la plus économique de capter son environnement, en fait. Voilà, tout simplement. Donc on peut avoir des raisonnements comme ça qui sont, j'allais dire, presque le bon sens. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas... Des fois, j'hésite pas du tout à avoir des convergences de formes tant qu'elles sont justifiées par une histoire évolutive. Voilà. Et c'est un peu pareil pour la culture, le langage, etc. J'ai essayé d'être le plus raisonnable possible, en essayant de justifier le plus possible le parce que c'est vrai que dans les années 50, on pouvait avoir des extraterrestres habillés avec des uniformes, voilà, comme dans Star Trek. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait plus. Si on veut faire une ESF un minimum réaliste. La notion même de vêtements doit être justifiée, par exemple.
Et au niveau culturel et social, justement, quand tu crées tes races extraterrestres, tu vas construire leur culture, ou tu laisses venir ça au fur et à mesure. Je veux dire, est-ce qu'avant de te mettre à écrire, tu as pensé absolument, donc comme tu viens de le décrire, les différentes étapes de l'évolution et donc aussi les différentes étapes de leur culture, ou tu les découvres au fur et à mesure
C'est plutôt une sorte de charte que je me suis donnée. En général, c'est effectivement au fur et à mesure, mais c'est une exigence que j'ai. Donc à chaque fois, je me pose la question. En fait, pour chaque acte, quand un extraterrestre fait quelque chose, déjà, j'essaie de singulariser la façon dont il fait. J'essaie de faire en sorte que la façon dont il le fait n'est pas d'essence humaine, n'est pas de face extraterrestre, entre guillemets. Et donc, je ne l'ai pas forcément inventé avant. Enfin, ça vient au fur et à mesure. Alors, j'ai quand même des fondamentaux. Hein. C'est-à-dire que je me dis quand même, notamment au niveau biologique, j'essaie d'être carré au niveau biologique. Mais après, ça coule un peu de source. Là. Ça se file au fur et à mesure. Mais en tout cas, j'ai toujours ça fonctionne en tâche de fond. En tâche de fond, je me dis toujours, il faut que ce soit justifié du point de vue purement extraterrestre et pas en tant que métaphore. Il faut pas que ça fonctionne. J'essaie que ça ne je dis pas ça va fonctionner en tant que métaphore. Non, il faut que c'est sa propre cohérence interne.
Oui, ce qui montre bien une ambition bien particulière, parce que pendant longtemps dans la science-fiction, l'extraterrestre n'a été rien d'autre qu'une métaphore ou un moyen de dépasser, voilà. C'est vous les questions prioritaires. Pardon, allez-y, madame, allez-y.
Oui, j'ai deux questions. Alors, d'abord, j'ai une question de fond philosophique. La question philosophique, c'est pourquoi, au XXIe siècle, l'humanité se sent seule dans l'univers, alors que pendant des siècles, des millénaires et des millénaires et des millénaires, ça ne serait jamais venu à l'idée de personne de dire « les humains sont seuls dans l'univers ». C'est la première question. Et donc, il me semble que tout cet imaginaire sur les extraterrestres découle beaucoup plus de cette grande découverte que de la science. Bon, du moins, ça découle de la modernité. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, corollaire, c'est que, bien sûr, actuellement, on fait pas d'anthropomorphisme grossier, mais on fait toujours de l'anthropomorphisme, on fait du terramo, je sais pas. En fait, la Terre est toujours le centre. Pourquoi ? Puisque les scientifiques très sérieux, qui cherchent des exoplanètes, cherchent des possibilités de vie à partir du cycle du carbone, en décrétant tranquillement... Pas d'autres possibilités de vie, pas d'autres possibilités d'intelligence, bien sûr. Donc on continue en fait à mettre la Terre au centre. Et pour moi, le mystère, c'est ça. C'est pourquoi tout d'un coup, on se sent tellement seul alors qu'on ne l'a pas été pendant des millions d'années.
Voilà. Alors d'abord, parce que c'est extrêmement difficile de sortir de son propre point de référence. C'est comme si on essayait d'imaginer un autre langage alors qu'on n'a jamais connu que le sien. Et que la difficulté de sortir de son... De sa nature humaine, de sa nature d'humain, déjà. La question de la pluralité des mondes, elle est quand même très ancienne. Elle remonte à l'Antiquité. Elle a été réactualisée au XVIe et au XVIIe siècle. Au XIXe siècle, elle a pris une nouvelle. Ça a été presque pas un dogme, mais quelque chose de avec Camille Flammarion. Ça a été quelque chose de scientisé assez tôt, hein, finalement. Donc toute une génération, même deux générations scientifiques, ont été convaincues qu'il y avait de la vie sur Mars, après tout. Donc la vie sur d'autres planètes a été, c'est pas quelque chose de si nouveau que ça. Maintenant, elle prend. Mais c'est vrai que ça restait quelque chose de quand même d'hypothétique. Ça restait une expérience, fondamentalement une expérience de pensée. Là où il y a eu ce fameux changement paradigmatique, c'est avec la découverte des exoplanètes. Et là, c'est clair que, et notamment des exotères. Et là, pour le coup. Ça a quand même changé de nature. La réflexion a changé de nature parce qu'on s'est dit, pour la première fois, on a quand même une vraie base scientifique absolument incontestable. Donc là, on quitte le champ de la pure hypothèse pour rentrer dans un champ réellement scientifique pour le coup. Donc il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé ces dernières années. On a vécu une révolution de la pensée quand même. Maintenant, pour ce qui est du tropisme carbone, le tropisme carbone, s'il est fort, c'est pour de bonnes raisons, quoi. C'est parce que c'est d'un point de vue énergétique, c'est de très très loin ce qui est le plus économique en énergie. Quand on voit l'eau qui est un solvant universel. C'est difficile de faire mieux, c'est même impossible de faire mieux jusqu'à demander à un chimiste, c'est impossible de faire mieux jusqu'à preuve du contraire. Un chimiste vous expliquera ça 10 fois mieux que moi, mais le cycle du carbone, c'est ce qu'il y a de plus efficace, de très loin, pour créer la vie, voilà, tout simplement parce que les briques peuvent se constituer même dans l'espace interstellaire, parce que il suffit d'avoir de l'eau liquide et finalement, de l'eau liquide, on en trouve quand même dans plein d'endroits dans l'univers, enfin dans plein de planètes en fait. Maintenant, on en découvre plein. Mais cela dit, la SF, elle a quand même créé plein de vies qui sont pas du tout liées au carbone. Hein. Enfin, prenez le nuage noir de Hoyle, de Fred Hoyle, dans les années, je sais plus, 60 ou 70, hein, 60. Prenez un feu sur l'abîme, je sais plus. Non, une vie neutronique sur une naine blanche.
Robert Forward,
L'œuf du dragon, qui est un bouquin génial, qui est un super bouquin, qui est une vie neutronique, donc pas du tout une vie qui est même pas atomique, quoi. Donc qui est basée sur des interactions sur une étoile à neutrons quand même. Donc non, on trouve la SF, elle a été quand même très très loin, même dans la hard science, même dans une SF très très scientifique. Les formes de vie ont été imaginées de façon très très diverse. Là où elle a été le moins scientifique, c'est au niveau, j'allais dire, énergétique. Les êtres d'énergie, voilà, là on était plus proche des anges et des choses comme ça, quoi. Donc là, ça se voilà. Mais la SF, non, elle a été très, elle a été plutôt inventive au niveau bizarrement, elle a été la plus inventive dans l'art science, je trouve. Alors que dans la science-fiction populaire, là pour le coup, elle a été très très anthropomorphique et où dans les pulps, voilà, c'est simplement des souriens,
des variations, voilà, sur l'humain.
Voilà, c'est des variations sur l'humain ou des variations sur les dinosaures qui a suscité plein d'extraterrestres, voilà. Il y avait deux grandes espèces extraterrestres, c'était les reptiliens et puis les insectoïdes, voilà, depuis les sélénites de Wells, quoi, voilà. Mais donc du coup, c'est vrai que c'est difficile de quand même d'échapper à un certain terracentrisme, c'est vrai.
Forcément, parce que l'imaginaire part bien de ce que l'on connaît. De toute façon, c'est bien ça la définition de la science-fiction, c'est réinventer le réel et partir du réel. Donc forcément, C'est très très dur de partir de rien.
Mais bon. La SF moderne a quand même compte maintenant pas mal d'espèces qui sont très loin de l'anthropomorphisme et de l'anthropocentrisme, je trouve.
Alors, question suivante, monsieur. Oui, on vous voit, oui. Très bien, allez-y.
Avant de poser ma question, je veux juste tenter de répondre rapidement à la question précédente.
Allez-y, bien sûr.
Une réponse un peu différente.
Rapidement, mais allez-y, allez-y, bien sûr.
Que sur le tropisme terrien, quand on relit Asimov il y a 50-60 ans, il y avait des jupitériens qui vivaient dans les nuages, il y avait des mercuriens, des vénusiens qui vivaient dans des pressions énormes. Et c'était des créatures totalement différentes des créatures terriennes. Donc, les exemples sont très très nombreux et pas que ceux de l'Air Science. Donc, il y a peut-être quelques exemples qui croient.
Parlez un petit peu plus près du micro pour qu'on vous entende bien, pardon.
Oui, donc, c'est peut-être une fausse théorie dire que les extraterrestres sont tous terriens, enfin, une forme terrienne. Et après, juste sur la première question, dire pourquoi c'est qu'au XXIe siècle qu'on a besoin de se sentir seul ? Moi, je réponds simplement, c'est qu'à partir du XXIe siècle qu'on a tué Dieu. Sinon, avant, on n'avait pas besoin de vraiment se poser la place dans l'univers.
Alors, votre question.
Voilà, ma question. Oui. Voilà, parce que par lancer un débat là-dessus, quoique ça peut être intéressant.
On est là pour débattre, mais en même temps,
c'est quand même
poser une question.
Cadré.
Allez-y.
Donc, ma question, là, c'était, je rebondis à la remarque sur les sens et sur la vision dont vous avez parlé tout à l'heure. En parlant de l'œil et donc le moyen le plus efficace de connaître, d'appréhender le monde,
oui.
Et savoir si vous avez vraiment utilisé d'autres sens que ceux qu'on connaît ou ceux qu'on a l'habitude de connaître. Par exemple, je sais que Stephen Wyle utilisait des extraterrestres qui avaient le sens du magnétisme. Et il y a quelques années, même, on découvre des oiseaux qui ont ce sens du magnétisme alors qu'on ne le savait pas.
Alors, je ne m'en rappelle plus dans quel bouquin de Stéphane Wyle, c'est dans quel titre ?
Je ne sais plus le titre, mais c'est le titre où il y a une invasion de... en gros, où ça commence, où l'eau ne boue plus...
La peur géante.
Oui, voilà, c'est ça.
D'accord. Je ne m'en rappelais plus pour les torpèdes.
Dis-donc.
C'était les torpèdes, ouais. En fait, le nom des sens n'a pas vraiment d'importance. Enfin, je veux dire, identifier tel sens, l'important c'est de déterminer la gamme. Parce que finalement, qu'est-ce qui différencie l'audition de l'œil ? C'est quoi ? C'est une longueur d'onde. C'est-à-dire, c'est l'œil, il va capter des ondes lumineuses et donc selon une certaine fréquence, et l'oreille, elle va capter des ondes sonores, donc à des fréquences beaucoup beaucoup plus basses. Donc si on a capté le principe du fait que un organisme vivant, pour capter son environnement, il doit percevoir toutes les formes d'ondes possibles et imaginables, qu'elle soit magnétique, qu'elle soit pourquoi pas gravifique. Voilà, l'essentiel c'est de capter le principe en fait. Après, on adapte et en fonction. Sur je sais plus quelle espèce, j'avais imaginé, je crois que c'est dans Point Chaud, une espèce qui capte, qui fonctionne. Hein. Non, c'est pas gravitationnel parce que là, il faudrait vraiment presque de la super science. Pour le coup, un organisme vivant, il aurait quand même du mal. Mais je sais plus je m'en rappelle plus. Mais oui, dans Point Chaud, j'avais pensé à ça, effectivement.
Il y a combien d'espèces dans Point Chaud ?
Oh, il y en a des. Alors, développées, il y en a peut-être une quinzaine.
Ouais.
Mais dans simplement nommées, il y en a des dizaines.
Ouais. Des dizaines, ouais.
Parce que la question implicite qu'il y a là-dedans, quand il y a des espèces qui ont des natures de sens complètement différentes. Mais par exemple, vous parlez
aussi... Alors justement, des sens complètement différents, c'est sur cette notion-là que j'ai un peu de mal. Parce que pour moi, un sens, voilà, c'est quelque chose qui va te permettre de capter des éléments dans ton environnement. Maintenant, surtout, la façon dont tu les captes, ça peut être de plein de... Là, on peut être inventif, pour le coup. Mais sur le principe de... c'est un capteur. C'est un capteur. Voilà. Un œil, c'est un capteur. Les nerfs auditifs, c'est un capteur. Ce qu'on a à la surface de la peau, qui nous permet d'évaluer la pression, c'est un capteur. Et voilà, c'est des choses comme ça.
Et puis, en fonction de la forme corporelle aussi, certains sens sont plus avantagés que d'autres. Et selon le voilà, selon la morphologie, c'est plutôt le toucher ou plutôt la vue qui sont avantagés.
Mais on peut voilà, et puis après ça. Mais cela dit, c'est vrai qu'aussi. Alors là où vous avez tout à fait raison, c'est que les sens déterminent aussi et la gamme dans laquelle on perçoit la gamme des fréquences, on va dire. Où on perçoit son environnement, le fait qu'on soit diurne, par exemple, ça va modeler notre psyché. Donc c'est là qu'effectivement, on peut se servir de la différence des sens pour aussi déterminer comment va être la psyché d'un alien. Donc la société, etc. Voilà, et tout ce qui en découle en aval, en fait. Donc ça fait partie de ce que je parlais au début, c'est-à-dire des fondamentaux biologiques qui va déterminer la forme d'une culture, et la forme d'un intellect alien.
Voilà. Oui, donc la biologie est surdéterminante sur la forme de la culture dans ton travail. C'est-à-dire que tu as complètement abandonné ce qui a été fait pendant très longtemps dans la science-fiction où on créait des formes d'aliens un peu bizarres, mais on en revenait toujours aux mêmes formes politiques, aux mêmes formes de culture, aux mêmes rapports entre les sexes.
L'idée, c'est une balance des deux. L'idée, c'est de varier le degré d'altérité. Des fois, le degré d'altérité, il est très très profond, en tout cas au premier abord. Et des fois, le degré d'altérité, il peut apparaître faible. Mais s'il apparaît faible, ça peut être aussi par une convergence des formes. Voilà, c'est ça que j'ai essayé de développer là-dedans. Même si de nature, ça peut être très très différent. Au final, on peut avoir le fait même, par exemple, que les aliens aient un langage. Déjà, c'est une convergence de formes, on peut dire.
Voilà. Tout à fait. Puisqu'on a cité Stéphane Vull et que Laurent Genefort connaît bien l'œuvre de Vull, on pourrait peut-être faire un petit moment, quelques minutes, sur l'extraterrestre dans l'œuvre de Stéphane Vull, peut-être, pour montrer qu'est-ce qui caractérisait un peu le rapport qu'avait...
Alors Vull, il avait un rapport très merveilleux et très exotique avec l'alien, d'une manière générale. Alors ces aliens, c'est assez bizarre parce que c'est un auteur des années 50, donc il était c'est quand même un produit de la guerre froide. Ces récits sont il y a beaucoup de récits qui dont la structure s'apparente à de l'espionnage. Hein. Après tout, Piège sur Zarkas, c'est quasiment un roman d'espionnage. Donc c'est très guerre froide. Sont des sortes de communistes extraterrestres. Voilà, on est dans des formes. Et en même temps, bizarrement, on sent qu'il a cette espèce d'amour de l'altérité qui fait que même ces extraterrestres envahisseurs, il n'arrive pas à avoir de la haine pour eux. Il y a une espèce de rapport extrêmement sympathique, je trouve, de Vull vis-à-vis des aliens. Même si, en apparence, on est en guerre contre eux, etc., il n'y a pas de jugement de valeur comme chez d'autres auteurs de l'époque qui prenaient vraiment ça au premier degré. Quoi. Un Garen, il va casser de l'alien. Vull, casser de l'alien, c'est une pensée totalement étrangère à lui. Quoi. Même au cœur de la guerre, pourtant. Et voilà, moi, c'est ça qui est magique avec Stéphane Vull, c'est cette espèce d'amour de l'altérité qui fait que ça transcende un peu tous les antagonismes idéologiques, même si il est aussi prisonnier de son époque aussi. Hein. Il échappe pas à certains poncifs sur des aliens. Mais ce qui transcende ça, c'est cette espèce d'amour de l'altérité.
D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre de Stéphane Vull, donc qui était un important auteur français de science-fiction dans les années 50-60, elle est disponible aujourd'hui encore en poche, hein, vous la trouvez facilement, avec des romans comme La peur géante ou Piège sur Zarkas, et d'autres encore qui sont New York, notamment.
Il est adapté chez Ankama.
Oui, et adapté
l'intégrale est adaptée.
Adapté, effectivement, chez Ankama, très bonne remarque en bande dessinée. Alors, question suivante, où est le micro ?
Il est là.
Là, allez-y.
Alors, je ne sais plus trop ce que je voulais dire comme question exactement, mais moi, j'ai vraiment remarqué dans plusieurs bouquins un autre intérêt du rapport de l'altérité entre un extraterrestre et l'humanité, c'est la question de savoir si les extraterrestres sont ou non des êtres pensants, intelligents. C'est ce qu'on retrouve dans l'humaine avec les Pilas.
Oui, les Pilas, ouais.
Avec les Pilas, et tout, il y a carrément un procès pour déterminer si oui ou non ils sont suffisamment intelligents et pour qu'on ait le droit ou non de détruire leur planète, en gros, et leur habitat. Et est-ce qu'ils ont le droit donc de citer, le droit donc de donner leur avis ? C'est quelque chose qu'on retrouve dans toute l'œuvre d'Orson Scott Card aussi, avec, avec moi, la voix des morts, que je trouve très intéressante de ce point de vue-là. Et ça, c'est vraiment la question de l'alien qui, moi, probablement m'intéresse le plus. L'autre, dans sa pensée, dans sa complète différence, et est-ce qu'il a le droit d'exister face aux humains qui détruisent tout ou pas ? Voilà.
Oui, je m'étais un peu inspiré de ce qui s'était passé à la, le fameux procès pour déterminer si les Indiens avaient... pas avaient une âme d'ailleurs, parce qu'en fait, ils considéraient qu'ils avaient une âme. Mais c'était... Voilà,
C'est la controverse de Valladolid.
Oui, oui, voilà. Où en fait, ce qui était discuté, c'était plutôt la hiérarchie des âmes plutôt que l'existence de l'âme des Indiens. Mais voilà, en fait, je me suis un peu... En fait, c'était ça qui m'a un peu... qui a été un peu le moteur de cet épisode-là. Mais là, il s'agit en fait d'une contingence économique, puisque dans le futur que je décris, c'est un futur dominé par des forces économiques avant tout. Et donc, le fait qu'il y ait de déterminer si une espèce, si telle espèce a un degré de conscience, certains degrés de conscience ou pas, et donc sont des individus ou pas, ça permet de déterminer à qui appartient la planète, en fait. Voilà. Donc, si on détermine que telle espèce n'a pas atteint une sorte de seuil critique à partir duquel on peut décréter que c'est un individu, ou en tout cas une espèce entière pouvant accéder au stade de peuple, on va dire, de peuple pensant et conscient, à ce moment-là, la planète reste dans le giron de la. Reste le propriétaire de la multimondiale en question, enfin de la grande société qui possède la. Donc il y a les enjeux pour le coup sont économiques quoi, dans ce contexte-là.
Après, c'est vrai qu'on peut voir des enjeux voilà, en deux mots juridiques aussi, hein, quand vous dites le droit
voilà,
de citer.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment juridique.
C'est effectivement, est-ce que les extraterrestres voudront le type de citoyenneté qu'on a ? Si oui, comment les intégrer ? Et ça, c'est une question que les auteurs se posent souvent aussi, qui renvoie à des tas de références historiques sur l'extension de la citoyenneté.
Oui, voilà, ou aux États-Unis pendant la conquête de l'Ouest, le fait que il y a beaucoup d'Indiens en fait qui n'ont pas été christianisés parce que voler la terre d'un chrétien c'est pas bien et c'est assez marrant d'imaginer qu'ils aient pu conserver certaines tribus et pu conserver leurs coutumes et n'aient pas été acculturés uniquement parce que enfin pour des raisons tout à fait contestables.
On trouve beaucoup de récits où la Terre d'un coup doit accéder à une communauté galactique. Et où justement, on doit déterminer si les Terriens sont assez, on répond aux différents critères pour leur donner la citoyenneté galactique ou pas. On le trouve dans les séries télé.
Voilà. Et Ian Banks avait inversé. Il y a une novella géniale de Ian Banks qui s'appelle L'État des arts. L'État des arts où l'humanité est évaluée par la culture. Pour savoir si elle peut, d'une manière globale, s'intégrer dans la culture. Et le critère est artistique.
Voilà. Ouais. Donc espérons que les utopiales servent à l'humanité. Alors, question suivante. Merci, hein, vos questions sont super. Et on a encore plein de temps. Enfin, on a encore un peu de temps. Alors.
J'avais une question par rapport à la mondialisation.
Oui, Brice.
C'est-à-dire que... de la même manière, peut-être que notre rapport à la question de la vie a changé avec la modernisation de la science et la découverte des systèmes solaires autres que le nôtre. Jusqu'à quel point, selon toi, la question de la mondialisation est venue perturber notre rapport à la question de l'altérité et donc à la vie extraterrestre ? Je pense à la. Enfin, ma question, elle est orientée. Je pense à la différence entre le 20e et le 21e siècle et ce qu'il pouvait y avoir avant où on avait des peuples sur Terre avec lesquels on n'était pas forcément avec lesquels le contact n'était pas forcément facile. Aujourd'hui, c'est difficile de rencontrer des individus, des êtres humains avec qui on n'a pas déjà noué contact.
Oui, alors tu as raison, moi je trouve que ça a été un changement absolument majeur et peut-être le plus grand changement, le vrai changement entre le 20e et le 21e, je pense que c'est celui-là. C'est la disparition de l'exotisme en fait. Et le fait d'être dans un réseau mondial, alors il n'est peut-être pas si mondial que ça, mais en tout cas oui, profondément ça a changé, ça a changé le rapport à l'autre de façon, je crois que j'aurais peut-être pas écrit au mal justement où je présente des humains qui sont aussi extraterrestres que les extraterrestres puisque je décris justement ce que j'essaie de... Dans Homal, j'ai justement essayé de décrire des humains à travers les yeux, entre guillemets, d'extraterrestres, comme si, et j'essayais finalement de faire un travail que j'essaie de faire dans la vie par rapport à des personnes que je peux rencontrer sur le net et qui ne sont pas de ma culture. Donc oui, clairement, j'ai transposé ce rapport à l'autre qui existe maintenant. On est au cœur du sujet. C'est clairement, on est au cœur du sujet là. Donc ouais.
Il y a un parallèle intéressant entre la disparition de l'exotisme et puis la découverte des exoplanètes, et quelque part qui va être un nouvel ailleurs pour projeter justement les... Parce que finalement, quand tu penses l'extraterrestre, on projette toujours à la fois des fantasmes de l'humanité, c'est-à-dire on voudrait que la rencontre se passe bien, on voudrait qu'elle nous apporte un tas de choses, un tas d'innovations. Est-ce qu'il n'y a pas justement à ce moment-là, est-ce que c'est pas aussi le moment où la science-fiction va, comme moi je l'espère à titre personnel, vraiment se lancer de nouveau vers une exploration très, pas négative, pas sombre, mais vraiment positive de l'altérité?
Ça devrait, mais en même temps, il faut être conscient qu'on est dans une période de repli identitaire très fort. Et c'est pas le chemin, moi je trouve que c'est pas le chemin que ça prend. Au contraire, parce qu'on voit surtout ce qu'on perd. Dans cette mondialisation, on est au plus près de ce qu'on perd et ce qu'on gagne est pas forcément, même si ça existe, c'est pas forcément évident. Donc, et là, c'était plutôt j'ai essayé de montrer ça à travers, pour le coup, pas au mal, parce que justement, j'étais dans cet autre aspect de la mondialisation, dans cet aspect que moi je juge plutôt positif, mais cet aspect plutôt négatif, j'ai essayé de le traiter avec point chaud en fait. Donc c'est les deux faces d'une même pièce, hein, le rapport à l'autre, à l'autre dans un réseau global. Point chaud, c'est plutôt des variations sur le repli d'une certaine manière, alors qu'au mal c'est quand on est plongé dans l'altérité et en même temps on est au début du truc, donc on est aussi dans une période de transition. C'était aussi ce que je voulais montrer dans Point Chaud. Point Chaud, c'est une période de transition et j'imagine quelqu'un qui est qui a 5 ans aujourd'hui. Quand il en aura 40, il aura vécu toute sa vie dans un réseau mondial, à moins que ce réseau ne s'effondre, hein, à moins que des pare-feux soient mis entre qu'il y ait des constitutions de nouvelles frontières, comme ça commence à exister en Chine, à droite à gauche, hein, souvent dans des théocraties, pour filtrer en permanence le truc. Et ce sera peut-être que ce filtrage sera la nouvelle frontière de demain.
Ok, allez, encore des questions, monsieur là-haut, allez-y.
Alors moi j'avais une question. On est en train de peut-être bousiller notre planète, et j'ai entendu, je ne sais plus quel philosophe ou auteur, mettait en garde contre la croyance des extraterrestres. Il disait que le fait de croire aux extraterrestres pouvait nous permettre de bousiller notre planète parce qu'il y aurait ailleurs une société qui pourrait mieux réussir que nous. Donc ce serait un alibi pour un peu se défausser dans l'histoire de l'évolution de l'univers. Ça, j'ai trouvé une réflexion. Cette réflexion était intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
L'extraterrestre comme excuse.
Alors, moi, je trouve ça. Logiquement, je vois. C'est quand même un raisonnement étrange. Parce que
c'était aux utopiales.
Je ne vois pas en quoi l'existence d'autres biosphères rendrait la nôtre moins précieuse, déjà. Donc, c'est un parti pris idéologique plus que fondé scientifiquement, j'allais dire. Alors effectivement, ça peut avoir une sorte de résonance. Ça peut nous rasséréner par rapport au dommage fait à notre biosphère. Maintenant, je trouve ça aussi peu crédible scientifiquement, ou en tout cas peu fondé, que l'hypothèse Gaïa servant aux climato-sceptiques ou aux ou au lobby industriel pour se dire « Ah mais non, vous inquiétez pas, de toute façon, la Terre s'en est toujours remise, il n'y a pas de raison qu'elle s'en remette pas ce coup-ci, même si on pousse les curseurs très très loin dans le déséquilibre. » Non, voilà, on est dans de l'idéologie, on n'est pas dans de la science. Voilà, donc j'ai pas de réponse, mais je considère que c'est un positionnement idéologique, scientifique, qui me paraît scientifiquement peu fondé. Voilà.
J'aurais une question à propos de comment est-ce qu'on peut qualifier un extraterrestre ? Par exemple, un être humain.
Pardon, comment est-ce qu'on peut qualifier
un extraterrestre ? Par exemple, imaginons un être humain qui naît, par exemple, sur Mars. Est-ce qu'on le considère terrien ou martien ? Et au bout de combien de temps est-ce qu'on peut considérer une génération de martiens qu'on considérera comme extraterrestre et non plus comme terrien et toutes les questions qui s'en suivent ?
Bah alors dans l'image, alors il y a deux réponses. Il y a la réponse juridique et scientifique, et puis il y a la réponse SF. Et dans la culture SF, un extraterrestre, c'est un non-humain venant d'une autre planète. Maintenant, oui, c'est Kim Stanley Robinson qui a merveilleusement développé ça dans sa trilogie martienne, où des humains se sentent humains et martiens, comme nous, on se sent humains et terriens. À partir du moment où on colonise une autre planète, il faudra, on aura créé un nouveau rameau, clairement.
C'est un peu l'idée.
Mais c'est intéressant parce que ça, du coup, on devient, on crée ses propres extraterrestres, ce qui est pas plus mal. C'est la notion de post-humanité, c'est pas autre chose. Hein. C'est créer sa propre altérité, ce qui est en soi un thème très très, enfin super intéressant. Après tout, si on trouve pas d'extraterrestres, pourquoi pas les créer nous-mêmes, quoi.
C'est un peu aussi ce qu'on trouve, par exemple, vous citiez tout à l'heure Asimov, mais pas dans le cycle de fondation, il n'y a pas d'extraterrestres véritablement. Si on prend par exemple les rameaux, puisque tu citais les rameaux dans Étoiles mourantes, donc d'Ayardal et de Dunyak, finalement l'expansion de l'humanité dans l'espace étant l'humanité, la notion même d'humanisation en quelque sorte, d'humanité. Donc c'est vrai que souvent les auteurs vont travailler sur cette différence là avec la notion d'extraterrestre, véritablement. Il y a des tas de romans où il n'y a pas d'extraterrestre du tout. Il n'y a que l'humanité qui devient étrangère à elle-même, ou en tout cas étrangère à ses cultures de départ, parce que l'environnement se modifiant, l'humain se modifie aussi. Vous avez le très beau, entre mémoires, James Blish, Sommeil humaine, voilà, où l'humanité s'adapte à des nouveaux environnements planétaires, Et donc et change
sur la panspermie, ouais.
Voilà, et change notamment physiquement en profondeur, tout en restant dans une logique humaine quelque part. Ça, c'est un bon exemple aussi de dynamique entre humain et extraterrestre. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas posé de questions là encore. Hein. On vous a vu, vous êtes fichés, hein, ça a mal se passer.
Je reprends le micro, mais parce que je vois pas d'autres qui veulent poser de questions. Hein, c'est
oui, oui, non, mais bien sûr, hein, bien sûr.
Donc sur cette logique, un humain qui va sur notre planète, qui se transforme en extraterrestre, un peu ce qui se passe dans Spin de Robert Charles Wilson. Mm-hmm. Et il y en a aussi un autre, je crois que c'est un roman de Frank Herbert où il y a un martien qui est et qui arrive sur Terre et qui découvre ça. Je sais plus le nom.
C'est quoi le nom, celui-là ? Je sais plus. Le roman de Frank Herbert.
C'était pas Heinlein plutôt.
Oui, Heinlein, si, excusez-moi, oui, Heinlein.
En terre étrangère.
Oui, voilà, exactement,
oui,
ça.
Oui, bah oui. Oui.
Et oui, mais c'est vrai que si je donne pas le bon auteur, on risque pas de trouver. Vous êtes comme fort. Oui, voilà. Et donc dans ce thème-là, et peut-être pour poser la question de manière plus radicale, quelle est la différence entre un post-humain et un extraterrestre?
C'est une très bonne question.
Ah, très bonne question. Entre
un post-humain et un extraterrestre.
C'est sur le thème de. J'allais dire que c'est une question de degré d'altérité sur certains plans, qu'ils soient génétiques. Voilà, c'est un niveau. Mais oui, peut-être pas de nature, effectivement. D'autant que je me rappelle, il y avait un épisode de. Je crois que c'était Twilight Zone. Ou au-delà du réel, je ne me rappelle plus, l'un des deux, où un humain est transformé chirurgicalement en extraterrestre et pour aller espionner, en fait. Et en fait, il accomplit sa mission, il est rapatrié, mais il ne peut plus être reconverti en humain. Et en fait, c'est Et le récit était très poignant, oui, justement,
je crois que c'est
dessus.
Au-delà du réel plutôt que.
Au-delà du réel, ouais, peut-être. Crois, ouais. C'est un des grands épisodes, ouais, j'avais trouvé. Ouais. Enfin, c'est pas une réponse, mais voilà. Ça a été traité en tout cas.
Non, mais c'est vrai que cette question-là entre l'humain, post-humain, complètement. On pourrait parler aussi des intelligences artificielles extraterrestres, parce qu'il y en a. Vous avez par exemple dans Un feu sur l'abîme de Werner Vinge, des intelligences artificielles qui ne sont pas conçues par les humains, ou en tout cas qui ne sont pas originées par les humains, et qui interviennent, et qui sont des formes d'extraterrestres, simplement pas des formes d'êtres vivants extraterrestres, mais d'êtres d'intelligence artificielle. Donc finalement, la frontière, elle est.
Mais il y avait un bouquin super intéressant qui s'appelait Le souffle du cyclone de Walter John Williams, oui, où on a la confrontation d'une humanité qui s'est répandue dans le système solaire, mais surtout la banlieue proche de la Terre, et qui est en contact avec une forme extraterrestre, et une faction de l'humanité cherche à transformer l'humanité en post-humain pour rejoindre, en fait, pour avoir une sorte de point de contact avec cette forme de vie extraterrestre qui fonctionne un peu de façon ruchière, ouais, mais une sorte de ruche vraiment très intelligente et qui ne nie pas totalement l'individu. Enfin, c'est, je crois, enfin, moi personnellement, c'est ce que j'ai lu de plus avancé philosophiquement sur le sujet, j'allais dire.
Et oui, alors j'ai une question pour vous, moi, parce qu'on aime bien vous poser des questions aussi. Alors, si certains d'entre vous ont lu Point Chaud, j'espère. J'espère que c'est le cas, sinon c'est un peu la honte. Hein. J'espère que c'est le cas. Quel est le point commun entre Point Chaud et Planète Interdite ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Est-ce que quelqu'un connaît qui a vu Planète Interdite, un film des années 50, voilà, ouais, de Fred MacLeod Wilcox, avec évidemment le robot Robbie.
Je pensais qu'il y en aurait plus que ça.
Alors, Planète Interdite, levez la main. Le film des années 50, il y en a là-bas, ouais, très bien.
Ah, moi, je pensais que ça. Tout, ouais. Bah ouais, je pensais que ça. Le plus grand film de SF des années 50, quand même.
Ouais.
Ah ouais, s'il y en a.
Sans inspiré de la tempête de Shakespeare, enfin librement inspiré. De
sans
la
lui, il n'y aurait pas eu Star Trek.
Oui, très probablement, parce que c'est le modèle de l'équipage qui explore l'espace.
Et puis le modèle du pilote.
Du pilote, c'est du premier robot aussi, Robbie, le robot qui n'agresse pas les êtres humains. Et donc il y a des extraterrestres. Et il y a un point commun entre Point Chaud et Planète Interdite. Est-ce que quelqu'un l'a ? C'est lié au nom d'une des races extraterrestres de Point Chaud, inspirée de Planète Interdite. Comment s'appelle la race extraterrestre qui a disparu dans Planète Interdite ?
Ah là, c'est pour les aficionados.
Ouais. Mais bon, on pose une question d'aficionado quand même, un peu.
Ouais, bah ouais.
Alors, les Krell ? Les Krell, bon, c'était voilà. Les Krell, auxquels tu rends hommage dans,
bah,
dans
oui,
Point
oui,
Chaud.
Oh, c'est truffé de petits bidules comme ouais, ça, ouais. En fait. Hein. Ouais, ouais.
Voilà, bon, enfin, en tout cas, on vous engage à aller voir Planète Interdite et puis surtout à lire Point Chaud et puis bien d'autres romans qu'on a évoqués, évidemment, Stephen Vu, Line, on a parlé de quoi aussi, de Fred Hoyle, Le Nuage Noir.
Ouais, ouais.
Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on ferme très temporairement ? Ah, il y a quelqu'un de caché là-bas. Allez, c'est vous la dernière question. Vous avez un micro ? Ben alors, venez, venez.
Et si là, un extraterrestre débarquait, qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'est-ce que vous voudriez savoir ?
Et si, pardon ?
Un extraterrestre débarquait
ici, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Qu'est-ce que vous lui diriez ? Alors,
Je serais très embêté. Je lui dirais, je n'ai pas prévu ton existence. Je suis désolé. Et j'aurais des tas de questions comme quelqu'un qui vient de loin, quoi. Je lui poserais des questions, les questions que tout le monde se pose vis-à-vis d'un voyageur au long cours. Voilà.
Merci.
Ok. Bon, eh bien, écoutez, merci à tous. Merci pour avoir joué le jeu de ces interro-surprises. Merci à Laurent. Merci beaucoup.